Vous êtes sur RTL.
Et à la une, la Coupe de France et ses surprises. Premier match, première sensation. Plo, club de 3e division, a éliminé Bordeaux hier soir dans une ambiance très festive. À suivre aussi bataille des retraites, mais aussi bataille des chiffres après les manifestations d'hier. Et puis le fichier polémique de la FNAIM. Leur réseau d'agences immobilières veut recenser tous les locataires qui ont du mal à payer leur loyer. Deux fois le temps d'ici 5h30.
À Chamonix-Mont-Blanc, en Haute-Savoie, le début de journée sera ensoleillé et la fin verra l'arrivée de la neige. 4 degrés prévus dans l'après-midi.
RTL Matin.
C'était finalement un pot de fer. Pau a éliminé Bordeaux hier soir en 16e de finale de la Coupe de France de foot. Le club de National signe un exploit. 3-2 à l'issue de la prolongation, Denis Grandjou.
Oui, 117e minute, le Pau FC marque le 3e but. Le volcan béarnais explose. Coup de sifflet final sur le terrain, les joueurs palois se retrouvent au milieu d'un océan de supporters qui envahissent le terrain. Le buteur, Mamadou Gueye.
Oui, c'est très beau, mais quand même, c'est pas la victoire de la carrière, parce que ça reste beaucoup de matchs, et beaucoup de gros matchs encore.
Un peu à l'écart, Bruno Hirle, l'entraîneur palois, savoure l'instant.
Oui, ce sont des sourires qui, j'espère, nous faciliteront la récupération. Et effectivement, je suis extrêmement satisfait de tout ce qu'on a fait, de tout ce que les joueurs ont apporté au public ce soir.
Bernard Laportefray, président du Pau FC.
Ça fait 22 ans qu'on n'a pas réédité un tel exploit. Bon, on va en 8e comme il y a 22 ans. Après, on ne sait pas quel sera le tirage. Mais bon, pourquoi pas reprendre un gros et puis sortir avec les honneurs.
En 1998, on a été éliminé par le PSG. Il est grand temps de prendre notre revanche. Plaisantait hier un supporter palois impatient du prochain tirage.
Denis Grandjou à Pau pour RTL. Ce soir, Marseille joue en Normandie contre Granville, club de National 2, l'OM qui s'invente une crise malgré une 2e place. Rendez-vous calé entre l'entraîneur André Villas-Boas et son président Jacques-Henri Hérault pour aplanir les différends, puisque le Portugais a critiqué les mesures d'économie et l'arrivée d'un nouveau dirigeant sans qu'il soit au courant. RTL, 5h. Et 3 minutes 44e jour de grève ce matin, et toujours autant de détermination dans la rue. Hier, d'après la CGT, 250 000 manifestants à Paris, d'après les autorités 10 fois moins, défilé également un peu partout en France. Le taux de grévistes est d'ailleurs remonté à la SNCF, plus de 10%. Le patron de la compagnie évoque quasiment 1 milliard de pertes et annonce un plan d'économie dès février sans toucher, dit-il, à l'emploi sur le terrain. Ce matin, comptez 8 TER sur 10, 3 transiliens sur 4, trafic TGV quasi normal. À la RATP, comptez 2 trains et métro sur 3 aux heures de pointe. La RATP, où les grévistes finissent par reprendre progressivement le travail, incapables de prolonger le mouvement. L'argent commence à manquer à la maison. Vincent Serrano, vous avez suivi justement pour RTL le retour à son poste d'un conducteur de bus plutôt amer.
La tête baissée, les yeux cernés par la fatigue, Patrick titube légèrement jusqu'à son bus qu'il n'a pas conduit depuis plus de 40 jours.
Un peu décontenancé, je me demande qu'est-ce que je fais là.
Une fois au volant, il met 5 minutes avant d'ouvrir la porte au premier voyageur.
C'est mon premier tour là, je vois des regards un peu insistants, agressifs, du fait pourquoi cette grève, que maintenant vous reprenez. J'ai fait 6 semaines, je suis allé au bout du bout de ce que je pouvais.
Et financièrement, cette grève vous a coûté beaucoup, Patrick?
2500 euros. Il me faudrait 4 à 6 mois pour éponger les dettes, mais je commence avec beaucoup de regrets. Hein.
Regrets par rapport à quoi? Par rapport à qui?
D'avoir fait grève pour rien. J'ai combattu les armes à la main, alors que d'autres n'ont même pas fait une journée de grève. Donc là, j'ai repris pour dire que voilà, c'est fini.
Une déception partagée dans le bus de derrière par un autre militant CGT. François a repris le travail il y a 2 semaines déjà. Il en veut au gouvernement de ne pas céder, mais surtout au syndicat.
Qui s'installe déjà autour d'une table entre syndicats, qui discutent déjà entre eux, entre syndicats, qu'ils avancent ensemble et qu'ils arrêtent de se tirer dans les pattes en disant « Non, nous, c'est le retrait qu'on veut, les autres, non, nous, on veut ça. »
C'est ce qui vous a poussé à reprendre le travail et à arrêter la grève.
Je vais vous parler honnêtement. Hein. C'est dommage qu'il y ait eu certaines tensions, justement. Il faut la jouer ensemble. Si ça la joue pas ensemble, bah, ça va se finir comment? Ça va se finir une main devant, une main derrière et ça passera quand même.
Résigné, il est pour l'instant sûr d'une chose. La grève a scindé en 2 camps les conducteurs de la RATP, ceux qui ont repris le travail et les autres. Avant de quitter le dépôt pour commencer sa tournée, il tranche. Quand tout cela sera terminé, j'aurai des comptes à régler.
Vincent Serrano pour RTL. Les militaires, eux, peuvent souffler. Pas question de toucher à leur retraite, à leur régime particulier. Emmanuel Macron l'a confirmé lors de ses vœux aux armées. C'était hier soir sur la base aérienne d'Orléans-Brissy. J'ai préféré garder ma liberté de parole. Ségolène Royal a riposté sur RTL hier soir. L'ex-ministre quitte son poste d'ambassadrice des pôles. L'exécutif comptait la limoger, fatiguée par ses critiques sur l'action du gouvernement. Elle est déjà candidate pour 2022. Marine Le Pen lance sa campagne présidentielle. La patronne du Rassemblement National compte préparer une grande alternance. Son parti doit toutefois valider son nom en congrès l'an prochain. Christophe Ruggia sous contrôle judiciaire, le réalisateur est mis en examen depuis hier. Pendant ses deux jours de garde à vue, il avait été notamment confronté à Adèle Haenel, l'actrice qu'il accuse d'attouchement, des faits qui se seraient produits au début de sa carrière. Elle était alors âgée d'une douzaine d'années. RTL, 5h06. Bientôt un fichier pour recenser les mauvais locataires. C'est un projet pour 2021 de la FNAIM, vous savez, le réseau d'agences immobilières qui veut inscrire tous les locataires incapables de payer leur loyer pendant quelques semaines, Raphaël Vantard.
Alors pour l'instant, c'est légal. La Commission nationale informatique et liberté étudie de très près la mise en place de ce fichier de locataires mauvais payeurs. La Fédération nationale de l'immobilier prévoit des données uniquement accessibles aux professionnels du secteur. Ce n'est qu'au bout de 3 mois d'impayés qu'un ménage sera inscrit sur ce fichier. Chaque locataire dans cette situation devra en être informé. Il ne pourra rester au total que 3 ans dans cette base de données. Si les dettes sont payées entre-temps, le locataire doit immédiatement être retiré du fichier. Lors de signature de bail ou de contrat de location, les agents immobiliers devront informer tous les locataires de l'existence de cette base de données. Les autorités attendent aussi des garanties extrêmement fortes en matière de sécurité informatique. Pas question de risquer des fuites ou un piratage sur des fichiers qui doivent rester évidemment confidentiel.
Raphaël Vantard pour RTL. On en discute ce matin avec vous et au 3210 et sur la page Facebook RTL Petit Matin. Vous prenez la parole. Est-ce que ce fichier va trop loin? Le moindre coup dur sera désormais sanctionné, vous empêchera probablement d'accéder à un appartement pendant les années qui suivent. On sait que les agences demandent de plus en plus de garanties aujourd'hui. Est-ce que louer un appartement, c'est vraiment devenu un parcours du combattant, ou à l'inverse, est-ce que les propriétaires ont besoin aujourd'hui d'être protégés des impayés avec un tel fichier? Le débat est ouvert. 3210, page Facebook RTL Petit Matin. On vous attend, on attend vos témoignages, on attend vos avis. Vous n'hésitez pas, vous êtes ici, chez vous, les amis. Un symbole maintenant, le restaurant Paul Bocuse perd sa 3e étoile, l'auberge du Pont de Collonges la détenait depuis 1965. Rendez-vous compte, l'établissement ne comptera que 2 macarons dans le prochain guide Michelin qui paraîtra fin janvier. On y reviendra d'ailleurs dans le journal de 5h30. Lui, son restaurant, il affiche complet. On vous emmène à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique maintenant, pour une sacrée leçon de vie. Vraiment, écoutez, il y a 2 ans, 43 réfugiés, soudanais, érythréens, syriens, étaient accueillis par la municipalité, dont une famille syrienne, un couple, 3 enfants qui avaient fui les bombes et donc leur maison d'Alep. Après avoir posé leurs valises, ces survivants ont décidé de reconstruire leur vie au bord de l'Atlantique et ils viennent d'ouvrir un restaurant de spécialité de leur pays. C'est RTL Un Jour en France.